J'aimerais lire d'abord dans le livre des Nombres, au chapitre 27, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que j'ai donné aux fils d'Israël. Tu le regarderas. Et tu seras recueilli vers tes peuples, toi aussi, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que, au désert de Tsin, dans la contestation de l'Assemblée, vous avez été rebelles à mon commandement quand vous auriez dû me sanctifier à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont là les eaux de Meriba, contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel, disant, que l'Éternel, le Dieu des esprits de tout le chair, établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer, et que l'Assemblée d'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et l'Éternel établit pour Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'Esprit, et pose la main sur lui. Dans ce livre des Nombres, à partir du chapitre 20, nous sommes dans la dernière année du voyage du peuple au travers du désert. Un voyage auquel il a été condamné à cause de son incrédulité. Chapitre 13, l'histoire des espions envoyés dans le pays. Chapitre 14, la méfiance du peuple à l'égard de l'Éternel. Et c'est en chapitre 14 que l'Éternel lui dit que un jour par année passée à reconnaître le pays, un jour il passera dans le désert à y errer jusqu'à ce qu'il entre dans le pays de la promesse. Alors c'est dans la 40e année que nous nous trouvons, depuis le chapitre 20, une 40e année très remplie d'événements. On a dans ce livre des Nombres, tout d'abord, ce qui concerne la manière dont le peuple doit être en ordre, que ce soit pour stationner, que ce soit pour partir, que ce soit pour s'arrêter, tout cela remplit les 9 premiers chapitres du livre, et au 10e, voilà que le peuple sort du désert de Sinaï. Il a mis 11 étapes pour y arriver, il arrive au 3e mois dans ce désert de Sinaï, comme nous lisons dans le chapitre 19 de l'Exode. Il va y rester près d'une année, il s'en va le 20e jour du 2e mois de la 2e année. C'est facile pour s'en souvenir, il y a que des deux. 20e jour, 2e mois, 2e année, il s'en va, chapitre 10 des Nombres, il s'en va pour la première fois. Effectivement, c'était un premier départ. On va dire que le premier départ, c'était de Ramsès qui est parti en Égypte. Mais là, c'est le premier départ parce que il a deux choses avec lui. Il a le tabernacle, le lieu de la demeure éternelle, et il a l'arche. L'arche représentant Christ, pour ce qui nous concerne. Le témoignage de Dieu avec lui. La maison de l'éternel, le tabernacle, était de toute importance pour l'éternel, puisque en fait c'est pour cela qu'il a fait sortir ce peuple en Égypte. Il fallait qu'il le libère, il fallait qu'il l'affranchisse de ce joug de servitude sous lequel l'Égyptien le tenait depuis longtemps. Mais ce besoin de libérer ce peuple était pour l'Éternel le moyen, le seul moyen d'habiter au milieu d'un peuple qui soit à lui en propre, qui lui soit saint et consacré. Et en fait, le but de l'Exode, le but du propos de Dieu exposé dans l'Exode, c'est ce que nous avons dans les deux derniers chapitres, 39 et 40. D'une part, Moïse achève l'œuvre, le tabernacle est dressé au premier jour du premier mois de la 2e année, et voilà que la gloire de l'Éternel peut investir cette maison de l'Éternel, selon l'expression qui est employée déjà dans le chapitre 39. Voilà pourquoi, donc, le peuple est sorti d'Égypte. Pourquoi l'Éternel l'a sauvé à main forte et à bras étendus? Alors, il part vraiment pour la première fois, parce que là, l'Éternel est avec lui. Il y a l'arche, il y a le tabernacle, et puis, il y a une sacrificature. Et il y a aussi des sacrifices à offrir. Mais, il dédie peu de choses quant au voyage. C'est vrai que le livre des Nombres a été appelé le livre de l'Assemblée au désert, selon l'expression du chapitre 7 des Actes, une expression d'Étienne. C'est bien vrai, c'est le livre du voyage, c'est le livre de l'assemblée au désert, mais nous n'avons pas de détails sur ce voyage. Nous avons des récits concernant le départ, depuis le chapitre 10 jusqu'au chapitre 18, peut-on dire, 19, et puis le chapitre 20 apparaît, et c'est la 40e année. Il faut dire que le chapitre 16, qui nous présente l'affaire de Corée, avec sa suite, chapitre 17, c'est le chapitre où il est question de la verge d'Aaron, manifestant que en cet homme, il y a l'homme que l'Éternel s'est choisi, une anticipation de l'homme pieux que l'Éternel s'est choisi, selon le psaume 4, parlant de Christ. Dans le chapitre 17, il y a cette verge qui nous montre que l'Éternel s'est choisi Aaron, et dans cette verge, il y a une puissance de vie et de résurrection qui nous parle bien du Seigneur Jésus. Alors, ce chapitre 16, avec l'affaire de Corée, qu'est-ce qui s'ensuit, chapitre 17? Moralement, le chapitre 18 et le chapitre 19 sont sans doute en rapport, pour ne pas dire certainement, avec le début du voyage. Chapitre 19, c'est le chapitre de la jeunesse rousse, une provision de grâce qui est accumulée à l'égard du peuple pour la suite du voyage. Il est certain que durant tout ce voyage, le peuple avait toutes les possibilités de toucher des morts, des cadavres, des ossements, de marcher sur des sépulcres, puisque 600 000 hommes allaient disparaître durant ces 30 étapes qui allaient l'amener dans les plaines de Moab, ce qui fait donc une moyenne de 20 000 morts par étape. Donc le peuple allait nécessairement être en contact avec la mort. Or, l'Éternel prévient cette impureté, cette souillure engendrée par ce contact avec la mort, avec les cadavres, avec les ossements, en prévoyant à l'avance cette eau de la génisse, cette eau de séparation. Alors on sacrifie une génisse, et puis quand on sacrifie une génisse, on en fait brûler tout entier, tout le corps, et les cendres qui en résultent sont mélangées avec de l'eau. Et c'est cette eau qui est l'eau de séparation avec laquelle un homme impur peut être rendu pur. Nous n'entrons pas dans les détails de ce chapitre. Mais cette provision de grâce repose en fait sur la mise en évidence d'un Aaron selon les pensées de l'Éternel, l'homme que l'Éternel s'est choisi, qui apparaît au chapitre 17. Le chapitre 18, nous le présentons comme Christ lui-même avec les siens. Et tout ce qui revient à cet homme, à ce grand sacrificateur. Et cela est basé sur l'affaire de Corée, et surtout sur la fin du chapitre 16, quand Aaron, avec son encensoir, fait intercession à l'égard du peuple et de la plaie qui se développe dans ce peuple. Donc, livre de l'assemblée au désert, mais peu de détails, ou même pas du tout de détails, sur ce voyage. Hormis le chapitre 33. Le chapitre 33 du livre des Nombres est une rétrospective, un coup d'œil en arrière, sur les 41 étapes qui ont emmené le peuple depuis Ramsès en Égypte jusque dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, face à Jéricho. Ce chapitre 33, d'ailleurs, pourrait nous paraître inutile, fastidieux, et on ne comprend pas pourquoi l'Éternel, en quelque sorte, Dieu a pris en quelque sorte la peine par son esprit de nous retracer toutes ces localités dont on ignore où elle se trouve, pour la plupart. Pourquoi? Pour nous montrer tout simplement que le peuple a beaucoup d'intérêt pour son cœur et que, comme on chante dans un cantique, la nuit, le jour, tu nous suis de tes yeux. Il nous suit de ses yeux, pas à pas, où nous allions. Ainsi en était pour le peuple. On retrouve l'amour, on retrouve la grâce. L'amour est au point de départ de l'histoire de ce peuple. Deutéronome 7 nous le dit. Mais c'est parce que je t'ai aimé. Et il en est même pour le peuple céleste. Dieu nous a aimés le premier, première épine de Jean. Et en ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a laissé sa vie pour nous. Voilà toujours le point de départ, l'amour de Dieu. Et cet amour qui se transforme en grâce à l'égard d'êtres qui ne méritent pas d'être aimés, des êtres misérables tels que nous étions, morts dans nos fautes et dans nos péchés, et puis les êtres que nous sommes, insuffisants, caractérisés par tant d'infirmité, tant de méfiance à l'égard des promesses, tant d'incrédulité. Eh bien, la grâce nous accompagne, et ce livre des Nombres est aussi le livre de la grâce. C'est frappant de retrouver tout au long des pages, et quelquefois dans un petit détail, dans un pas grand-chose, la preuve de la grâce de Dieu qui nous accompagne. Donc nous avons besoin, pour porter remède à ces situations difficiles dont nous sommes coupables, pour porter remède à ces crises. Nous faisons allusion au chapitre 17 de ce livre, eh bien, on voit que la verge d'Aaron est un remède en grâce. Verset 5, il arrivera que la verge de l'homme que j'ai choisi bourgeonnera, et je ferai cesser de devant moi les murmures des fils d'Israël par lesquels ils murmurent contre vous. Et un peu plus loin, dit verset 10, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être gardée comme un signe aux fils de rébellion, un signe de ce qui Aaron pour le peuple et devant les yeux de l'Éternel, et tu feras cesser leurs murmures devant moi, ils ne mourront pas. Voilà un instrument, aussi bien la verge que Aaron, de la grâce de Dieu. La grâce se déployant et faisant en sorte ces rébellions cessent. C'est ce qu'on pourrait appeler la guérison silencieuse de la part de Dieu. C'est une expression que nous employons à propos de ce chapitre 17, mais qui peut tout à fait s'étendre à nos propres circonstances. Dans l'histoire du peuple de Dieu sur la terre, dans l'histoire de l'Assemblée sur la terre, il y a eu et il y a encore des circonstances très difficiles, des crises, dans lesquelles se manifestent des états d'esprit de rébellion, des murmures et tant d'autres choses. Alors il peut faire que Dieu agisse d'une certaine manière, dévoilant le mal ouvertement, mettant la chose devant nous, opérant publiquement le travail qu'il veut opérer en vue d'une restauration. Mais il y a aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, quand on perd courage, quand on attend qu'il y ait une solution publique, manifeste, eh bien il y a aussi ce qu'un frère a appelé, il y a plus de 40 ans, la guérison silencieuse. Le Seigneur qui agit en grâce, dans le secret des cœurs et dans le secret de la vie d'une assemblée, ça peut se faire. Ça peut se faire. N'oublions pas que quand David retrace l'histoire morale de son péché, les exercices par lesquels il est passé, et c'est spécialement le psaume 32 et surtout le psaume 51, il est amené à dire dans le dernier psaume, tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. C'est une belle expression qui nous montre de quelle manière la grâce de Dieu agit bien souvent. On a un frère, il a péché, il est caractérisé par une situation plus que difficile, humiliante, attristante. Et puis, il se peut que dans un certain cas de figure, il y ait quelqu'un qui aille vers lui, qui lui fasse connaître son péché. C'est en accord avec l'enseignement de la parole, nous pensons à Lévitique 4. Et puis, il y a quelque chose qui se déroule dans la vie de cet homme, nous n'insistons pas. Mais il peut se faire aussi que, d'une manière silencieuse, dans le secret de son cœur et de sa conscience, le Seigneur agisse en grâce. Dans le secret du cœur et de la conscience, parce que c'est toujours le cœur qui est touché d'abord, pour que la conscience soit éveillée. Et ainsi, le Seigneur opère son travail dans le secret. C'est bien souvent que ça nous est arrivé, qu'on soit seul à seul avec le Seigneur, la nuit quand on ne peut pas dormir, ou bien quelquefois au milieu de 5000 personnes, on se retrouve tout d'un coup seul. Le Seigneur qui, dans le secret de notre cœur, nous fait comprendre sa sagesse, et on sait que la sagesse, c'est se retirer du mal. C'est aussi comprendre la pensée du Seigneur. Voilà la manière dont la grâce peut agir. Et nous avons besoin de cette action silencieuse et cette guérison silencieuse. Ce n'est pas toujours, répétons-le, d'une manière publique et avec des éclats que le Seigneur opère, mais ça peut être d'une manière plus discrète et au savoir de toute façon. Alors, revenons aux 40e année. Elle commence avec le chapitre 20, il y a des choses tristes, mais il y a aussi des choses triomphantes. On pense au succès d'Israël sur le roi des rois des Amoréens, au chapitre 21 notamment, une victoire remportée jusqu'à en bas, puis ensuite une victoire remportée contre Sion et contre Og. Il y a des choses pénibles comme l'enterrement de Marie dans le désert de Tsin au début du chapitre 20. Il y a Aaron qui est recueilli sur la montagne d'Or, le 5e mois de cette 40e année. Là encore, nous avons une preuve de cette grâce de Dieu qui a accompagné le peuple jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien, parce que sur cette montagne d'Or, Aaron est dépouillé de ses vêtements. Devant Moïse, devant son fils Éléazar, et devant tous les fils d'Israël qui contemplent la scène de loin. Qu'est-ce qui reste d'autre devant tous ces spectateurs? De cet homme qui était sacrificateur loin, de cet homme qui avait été paré de vêtements de gloire et d'ornements, pensons à l'expression d'Exode 28, qu'est-ce qui reste? Il reste un homme, mais pas un homme tout simple, non. Un homme qui a été jusque-là l'objet de la grâce de Dieu, qui l'a accompagné tout au travers des circonstances, que ce soit Lévitique 10, que ce soit Nombre 12, Aaron est là, accompagné jusqu'au bout par les soins de l'Éternel. Lévitique 10, alors c'est l'histoire de ses deux fils, qui ont présenté du feu étranger, et puis qui ont été jugés immédiatement par l'Éternel, qui a voulu se sanctifier en eux, en les consumant. Et on voit, c'est bon de le dire, parce que c'est en rapport avec notre sujet, l'histoire de la grâce de Dieu, de ce que Dieu accomplit, de ce que le Seigneur fait à l'égard des siens. Nous avons au chapitre 10 du Lévitique, ce verset 3, verset 2, le feu sortit devant l'Éternel et les dévora. Un avait la vie, il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est là ce que l'Éternel prononça en disant, je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi. Et devant tout le peuple, je serai glorifié. Et Aaron se tue. Voilà l'expression suprême, pourrait-on dire, de l'humiliation. L'humiliation peut être un piège pour nous quand elle se part de paroles qui dépassent nos pensées et l'état de nos cœurs. L'humiliation, ce cas-là, peut être un piège. On peut aller jusqu'à être fier de paroles d'humiliation, à être très satisfait d'une réunion d'humiliation. Et en fait, peut-être que la vraie humiliation, ou le point initial de l'humiliation, c'est le silence. Et peut-être devrait-on quelquefois convoquer des réunions de silence. Le silence est heureux devant l'Éternel. Il est heureux quand, comme ce matin, avant la scène, nous avons remarqué ce silence. Peut-être n'aurions-nous pas aimé le rompre, ce silence, mais il le fallait, c'est bien évident. Peut-être n'aurions-nous pas aimé le rompre parce qu'il était chargé d'adoration. Et le parfum remplissait toute la maison en ce moment du culte de cette journée. Et alors, on l'a continué par un geste accompagné d'action de grâce, mais le geste était là, de prendre le pain, de prendre la coupe, qui était une réponse, et qui était une adoration, un souvenir du sacrifice. Le silence peut-être existait aussi à notre honte, quand les cœurs sont secs, vides, quand la réunion n'a pas été préparée. Vous voyez qu'on ne préparait pas les réunions. Vous voyez qu'on prépare la réunion, ça se dit. Eh oui, on ne les prépare pas peut-être matériellement, dans ce sens qu'on n'établit pas un programme. Mais dans nos cœurs, les réunions se préparent, toutes, à plus ou moins long terme. Quelquefois, on peut préparer une réunion plusieurs semaines avant, ou dans la semaine qui précède, ou la veille. Mais qu'est-ce que ça veut dire préparer une union? C'est-à-dire être assez près du Seigneur, être assez nourri de la parole, être rempli de l'esprit, de manière que le moment venu, alors il y a quelque chose dans le cœur. Eh bien, cette réunion-là a été véritablement préparée. Que ce soit une réunion d'édification, que ce soit une réunion de culte, que ce soit une réunion de prière. Il a fallu un temps avant pour que le cœur soit rempli et qu'il s'épanche soit en adoration, soit en intercession et supplication, soit pour donner. C'est pas parce qu'on rentre dans le local que tout d'un coup, alors là, l'esprit agit. Comme en un seul instant, comme oserions vous dire d'une manière magique et instantanée. Pas du tout. L'esprit est en nous, il continue à agir, parce que nous sommes réunis en assemblée. Mais il faut qu'auparavant, il ait été en nous et qu'il ait produit ce qui doit produire dans le croyant associé à la parole. C'est une continuation entre notre vie quotidienne pendant 6 jours. Et le moment où nous entrons dans le local, quelquefois les enfants pensent que c'est ce qui se passe. Ah, on nous a dit que l'esprit agit. Alors c'est certainement que tout d'un coup un frère reçoit directement l'esprit alors qu'avant il n'y avait rien et que sa bouche peut s'ouvrir. Il est certain que l'esprit conduit et qu'on a à se laisser conduire par l'esprit. Et qu'à un moment donné, on ouvre sa bouche. Mais il y a ce préalable qui peut et qui dure pendant des jours et des semaines auparavant. Et c'est cela, la préparation de la réunion. On comprend bien que Marie, pour offrir son parfum de nardure et de grand prix dans les rangs sans livre, eh bien, elle a mis longtemps pour acquérir ce parfum. On peut calculer, en faisant certaines approximations, que pour acquérir la parfum de ce prix-là, il lui a fallu épargner pendant 3 ans et demi, à peu près. Eh bien, voilà que le cœur qui a suivi le Seigneur, qui a été préparé par le Seigneur et par sa grâce, pour au moment voulu, donner ce qui lui revenait. Nous voyons très bien, nous écartons là, complètement du sujet, mais nous en parlons en passant, que dans le livre de l'Exode, au chapitre 35, il fallait que tous les hommes qui avaient un caractère libéral offrent de franche volonté pour la construction du tabernacle. Et ça, c'est la pensée des législations quant à l'assemblée. Mais il y a aussi la pensée que les hommes et les femmes, quant au tabernacle, s'impliquaient dans les différents éléments qui allaient être assemblés pour le tabernacle. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons pendant 6 jours à nous impliquer dans la vie du corps de Christ, c'est-à-dire dans la vie d'assemblée. C'est 1 Corinthiens 12. Voilà chaque membre du corps qui est à sa place, qui fonctionne à sa place. Et c'est pas seulement le premier jour de la semaine. Non, c'est tous les jours que nous avons à nous impliquer dans le corps de Christ, dans l'assemblée. Et puis alors ça va être manifesté dans la réunion d'assemblée. La réunion d'assemblée, 1 Corinthiens 14, est la manifestation de ce que nous aurons vécu chacun, frères et sœurs, du plus jeune au plus âgé, dans la vie du corps, étant un membre du corps de Christ. Un membre du corps de Christ, j'espère que nous sommes tous ici un membre du corps de Christ. Un membre du corps de Christ, c'est quelqu'un qui est sauvé par la grâce et par la foi, qui est passé de la mort à la vie. Il ne s'agit pas d'être en communion ou pas en communion. Il s'agit d'être sauvé. Et l'assemblée est composée de tous ces multiples croyants dispersés dans toute la chrétienté, sur la face de la terre habitée tout entière. Alors comment le Seigneur va faire pour rassembler tous les vivants dans un instant? Ça on ne sait pas, mais c'est son affaire, et il le fera comme il faut. En tous les cas, lui le sait, partout où sont les membres qui constituent son corps présentement sur la terre, il le sait. Et s'il y en a qui sont en communion, et il y en a qui n'y sont pas, mais tous ceux qui sont ici et qui ont la vie, sont des membres du corps de Christ. Et ajoutons donc, ça ne va peut-être pas leur faire plaisir, qu'ils ont une responsabilité quant à la vie du corps. Que vous soyez en communion ou vous ne soyez pas en communion, vous avez une responsabilité quant à celui qui a acquis des droits sur vos cœurs et dont vous êtes les membres. Vous êtes les membres de Christ, c'est dans Corinthiens 12. Vous êtes les membres de Christ, vous êtes attachés au Seigneur qui a des droits sur vous. Vous êtes responsable quant à lui et vous êtes responsable quant à l'Assemblée. Vous n'avez peut-être pas le même degré de responsabilité que ceux qui sont en communion, mais quand même, vous faites partie de l'Assemblée du corps de Christ. Et ce que vous pouvez dire, faire ou penser a une répercussion, n'en doutons pas, sur la vie d'une assemblée locale. Pas parce que vous n'êtes pas en communion, vous n'êtes pas impliqué dans la vie du corps. Pas du tout. Il faut le savoir. Vous pensez peut-être, certains pensent qu'en n'étant pas en communion, vous êtes plus libre. Vous êtes dégagé de ce qu'on appelle quelquefois le joug des frères. Vous pouvez en faire à votre guise, faire de votre dimanche ce que vous voulez. C'est une conception, ça n'enlève rien au fait que le Seigneur domine sur vous. On chante dans un cantique, tant dire, soumets tout notre cœur à ton doux empire. Quand c'est pas exclusivement pour les frères qui sont en communion, c'est pour tous les ratés du Seigneur. Eh bien, de cette implication à la vie du corps de Christ, parce qu'on sent sa responsabilité, découlera la nature de la réunion qui aura lieu ensuite. La réunion, l'assemblée est la manifestation de la vie du corps, de la vie que chaque membre du corps a par rapport au corps de Christ. Si pendant 6 jours ça nous est absolument égal, le corps de Christ, si ça nous est absolument égal, l'assemblée, eh bien, nous étonnons pas si le dimanche, la réunion sera ratée, sera morose, sera triste, monotone. S'il y aura des choses qui nous font souffrir, toutes ces phrases qu'on répète, qui sont usées, éculées jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a pas vécu le corps de Christ. Alors, on doit se contenter de choses dans lesquelles il n'y a pas le rafraîchissement et le souffle de l'esprit. Alors, pour rester dans ces conditions-là, il faut s'approcher. Et quand on ne s'approche pas, eh bien, on a des âmes qui quittent le rassemblement. Et à qui la faute? Peut-être pas tellement à elle qui s'en vaut, mais à nous qui avons mal manifesté la vie du corps de Christ, qui ne l'avons pas vécu selon la Corinthiens 11. C'est ça dont il faut se plaindre. Et je parlais des autres 35. Pourquoi? Parce que on voit comment ces Israélites étaient amenés à travailler. Il y a 7 spécialités. Il y a l'artiste qui fait l'ouvrage d'art, il y a l'inventeur. Il y a le lapidaire, il y a le parfumeur, il y a le tisserand, il y a le brodeur, il y a le graveur. Nous avons la récapitulation dans l'ensemble de ces chapitres 28 et suivants. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrage 2, ouvrage 2, ouvrage 2? Si nous avons devant nous des artisans qui travaillent, alors ils choisissent les matières premières, ils les assemblent, ils les ajustent, ils font un travail de leurs mains. C'est un travail artisanal. C'est du fait main. C'est un travail personnel. C'est une responsabilité personnelle que l'artisan a assumée jusqu'au bout. Et ça s'oppose à l'objet fabriqué en série. Ça s'oppose au tout fait, ce qu'on peut acheter dans un magasin. Eh bien, cela se traduit tout à fait dans la vie du corps de Christ que chacun doit avoir comme membre du corps de Christ et qui se manifeste dans la réunion d'assemblée. On va très bien voir dans la réunion d'assemblée si on amène du tout fait, de la série industrielle, avec tout ce que cela suppose de monotonie dans les expressions, ou bien si on amène du fait main, de l'ouvrage artisanal, quelque chose où chacun s'est senti personnellement impliqué. C'est tout différent. Alors là, les pensées seront fraîches. Alors là, l'esprit agira puissamment. Nous sommes là dans un sujet qui est complètement différent de ce que nous avions dans nous, mais c'est quand même important d'y faire allusion, ne serait-ce qu'un coup restant. Donc nous avons dans ce chapitre 20 des Nombres, Aaron qui est là comme un objet de grâce devant nous, devant le peuple. Il a été accompagné ainsi jusqu'au bout. Et puis, nous avons les prophéties de Balaam dans les chapitres 22, 23, 24 qui sont fort intéressantes, et au chapitre 25, c'est la dernière crise du peuple. C'est l'affaire de Baal-Péor. Une affaire terrible dans laquelle, pour une seule fois, Moïse n'intervient pas en intercesseur. Moïse n'intercède pas. Et on a pu dire que c'était parce que cette affaire était assimilable, comparable à ce dont nous parle Jean. C'était comme un péché à la mort, pour lequel il nous est dit qu'il n'y a pas lieu de demander. Et Moïse, donc, devant une gravité, une telle gravité de la situation, n'a rien demandé. Et pourtant, dans les 17 ou 18 autres circonstances où le peuple a manqué, chaque fois il est intervenu. Et de quelle manière? Effectivement, si nous comptons depuis le chapitre 5 de l'Exode jusqu'au chapitre 25 des Nombres, nous pouvons dénombrer à environ 16 ou 17 ou 18 circonstances dans lesquelles le peuple a manqué, il a été en rébellion, il a murmuré, il a contesté. Et chaque fois, voilà, là pour nous comme étant notre sujet, chaque fois, Moïse a intercédé. Le peuple a toujours été, et jusqu'au bout, c'est au chapitre 27, le peuple a toujours été l'objet des soins, l'objet de préoccupation de Moïse, type de Christ. Toujours. Mais au chapitre 25, Moïse ne demande rien. Le peuple a pleuré. Phiné a fait propitiation pour le peuple en transperçant le prince des Simonites et la femme Moabite qui était avec lui. Mais il n'y a pas eu purification. Et au chapitre 22 de Josué, Phiné peut rappeler cette circonstance aux deux tribus ennemies qui avaient établi l'autel de l'aide, l'autel du témoignage. Il rappelle la manière dont le peuple avait commis l'iniquité à Baal-Béor, et il dit, ce Phiné, en Josué 22, il dit que le peuple ne s'était pas purifié de cette affaire à ce jour, 7 ou 8 ans après. Pourquoi il ne s'était pas purifié? Eh bien parce qu'il n'avait pas confessé. C'est une preuve de la grâce de Dieu et des soins du Seigneur que de nous amener à nous humilier, à sentir nos misères, à mener deuil et à pleurer. Ce n'est pas naturel à nos cœurs, mais la grâce de Dieu nous y conduit. Et c'est déjà un point, c'est une étape. On pourrait ajouter que, si on pense à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Lévitique 10, la première étape, c'est le silence. Un peu comme les amis de Job, quand ils se sont arrêtés devant cet homme gravement atteint dans sa santé et dans sa famille. On s'arrête et pendant 8 jours, on dit rien. Eh bien, Lévitique 10 nous dit que Aaron se tue et que dans une situation comparable, aussi triste, nous aussi, nous avons un doute. Mais ensuite vient, par la grâce de Dieu, agissant en nous, le fait qu'on sent nos misères, qu'on mène deuil et qu'on pleure. C'est l'humiliation qui ne suffit pas. Il faut une deuxième étape, c'est la confession de nos péchés. Alors là, c'est plus difficile. Disons tout à l'heure, l'humiliation, ça peut être un piège pour nous. On se laisse aller à des paroles d'humiliation qui dépassent les pensées de nos cœurs, qu'on déchire facilement nos vêtements et pas volontiers nos cœurs, comme nous dit le prophète. Mais il faut aller plus loin, justement. Il faut aller jusqu'à la confession, dire, tel jour, j'ai menti à un frère. Oui, je m'en souviens. Je te le confesse, Seigneur. Et puis on peut être amené à le confesser à son frère aussi. Tel jour, j'ai dit quelque chose de mal contre une sœur. Tel jour il s'est passé ceci, tel jour il s'est passé cela. Une assemblée peut même dire qu'elle a commis une iniquité tel jour, dans telle circonstance. Mais confesser, c'est très difficile. Un frère m'en parlait, qui avait justement eu quelque chose à confesser, mais qui disait, je ne sais pas, mais quand on est amené à confesser, à ouvrir la bouche pour rappeler un péché commis, mais on est véritablement brisé, on est complètement démoli. C'est pas naturel de confesser. On a l'habitude de faire un appel aux pécheurs, aux hommes qui sont ici, qui sont inconvertis. Souvent, c'est l'occasion, quand on présente la parole, de présenter la bonne parole, de présenter la bonne nouvelle du salut. Mais il faudrait peut-être aussi, quelquefois, faire un appel aux croyants, aux frères et aux sœurs, leur disant que s'ils ont un péché, qu'ils ne continuent pas à le porter, il nous enveloppe si aisément qu'il empêche la course, il nous entrave. Il cause une souffrance continuelle sur le cœur et la conscience de ce frère, de cette sœur. Et ça serait si facile de nous en soulager, d'aller à Dieu et de confesser vos péchés, vos péchés. La première épître de Jean dans son premier chapitre ne concerne pas spécialement les incrédules, mais concerne les croyants. Et c'est là qu'on a ses œuvres, nous disons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, premièrement, et pour nous purifier de toute iniquité, deuxièmement, ce qui est deux choses différentes, ce qui sont deux choses différentes. Confesser ses péchés, Je crois qu'il y a beaucoup de croyants qui souffrent beaucoup à cause de cela, comme aussi à cause d'autres choses qui ne sont pas des péchés, mais qui sont un tourment pour leur âme, des arrière-pensées, de la rancœur, de l'amertume. C'est pour ça que David, dans son psaume 139, à la fin, peut dire « Éprouve-moi, connais mon cœur, et vois s'il y a en moi quelque voie de chagrin, quelques racines d'amertume qui est là, dont il faudrait se débarrasser. » C'est tellement douloureux de porter ces choses. On parle dans un cantique de ceux qui gémissent et dont le cœur s'abat tour à tour. Voilà les pécheurs dans le monde. Mais on dit aussi dans ce même cantique 152, nos cœurs déchargés de tout rude fardeau. Et il y a des croyants qui ont des fardeaux qui leur pèsent. Soit que ce soit des péchés, soit tout simplement ces pensées de rondeur. Il faut se débarrasser. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons nous en débarrasser. C'est en allant vers David, vers celui qui s'occupe de nous, jusque dans les moindres détails, les besoins de nos consciences, de nos cœurs et de nos âmes. Aller vers lui. Donc, au chapitre 26, nous avons une parenthèse qui va se terminer avec le chapitre 30. Le chapitre 31 est en relation avec le chapitre 25. Il n'y a qu'à lire la fin du chapitre 25 et le commencement du chapitre 31 pour voir la relation. C'est la vengeance à exercer sur les Madianites. Et entre le 25 et le 31, il y a le 26, le peuple. Le 27, les sa fille de Tselofkad et Moïse. Le 28 et le 29 et le 30, ce qui est dû à l'Éternel. En sacrifice, chapitre 28 et 29. Quant au vœu, au chapitre 30. Tu recommences parce que je suis allé trop vite. Donc, au chapitre 26, nous avons le recensement du peuple. Voilà le peuple. Voilà ce peuple qui a commis l'iniquité du chapitre 27. Alors, l'Éternel en fait le recensement. Il en connaît, il en connaît tous les détails, tout ce qu'il compose. C'est encore sa race. Et c'est là d'ailleurs que nous apprenons, incidemment, au détour d'un verset, que les fils de Corée ne moururent pas. Allusion au chapitre 16, l'affaire de Corée. Les fils de Corée ont été épargnés. Alors d'abord, chapitre 26, le peuple. Ensuite, chapitre 27, deux sujets de rafraîchissement pour l'Éternel. Il a pourtant vu ce peuple pécher de la sang. Au chapitre 25. Deux sujets de rafraîchissement. La foi, avec toute son audace, de la part des saintes filles de Tselofkad. Sur les filles, qu'elles sont saintes. On pourrait dire que c'est la faiblesse au carré. Non seulement le côté de la femme, mais encore elles sont saintes, le chiffre de la faiblesse. Voilà donc ces saintes filles de Tselofkad qui ont l'audace de la foi et le désir de l'amour. Quant à leur part d'héritage, nous n'avons pas lu ce premier paragraphe, mais chacun de nous pourra le faire. Ce qu'elles ont dit est entériné par l'Éternel. Il peut dire, elles ont bien parlé. Quelle merveilleuse approbation de la part du Seigneur. Le Seigneur nous approuvera toujours si nous manifestons l'audace de la foi et le désir de l'amour. C'est dans son désir produit par l'amour que l'épouse peut dire, à la fin de ce livre, avec l'esprit, conduite par l'esprit, viens. Voilà un désir d'amour. Le Seigneur ne peut qu'approuver, il répond, oui, je viens bientôt. Et de la terre, à nouveau, remonte cette prière, Amen, bien Seigneur. Les saintes filles de Tselofkad ont bien parlé, c'est un rafraîchissement pour l'Éternel. Et il répond au-delà de ce qu'elles ont demandé, puisque cela devient un statut de droit pour tous les fils d'Israël. Voilà la merveilleuse réponse. Et puis deuxièmement, voilà Moïse. Avec son intercession à l'égard du peuple, il ne voudrait pas que l'assemblée des filles d'Israël soit, et l'assemblée éternelle, soit comme un troupeau qui n'a pas de berger. Jusqu'au bout, il aura eu souci du peuple. Image de Christ prenant soin des siens, mais aussi un modèle pour nous. Voilà deux modèles, voilà deux exemples devant nous. D'une part, sommes-nous assez attachés à notre part céleste, à notre part d'héritage, Deuxièmement, est-ce que nous avons souci de l'Assemblée? Chers jeunes, il ne s'agit pas seulement que vous soyez sauvés. Il ne s'agit pas seulement que vous sachiez que celui qui vous a sauvé est votre Seigneur, qui a des droits sur vous. C'est déjà bien de le savoir. Il faut savoir aussi qu'étant sauvé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous êtes un membre du corps de Christ. Vous faites partie de l'Assemblée, en communion ou pas. On reçoit quelqu'un à la table du Seigneur parce que c'est un croyant, parce qu'il a la vie, parce qu'il fait déjà partie de l'Assemblée. Il n'entre pas dans l'Assemblée parce qu'il prend la scène. Mais non, quelquefois il y en a qui croient. Mais c'est pas ça du tout. Quelqu'un qui a la vie est sauvé, c'est un membre du corps de Christ. Donc, il a sa place à la table du Seigneur, il peut y être reçu sous certaines réserves. Mais, voilà, chers jeunes, cette pensée qui doit vous accompagner dans votre vie sur la terre, c'est cette pensée que vous faites partie de l'Assemblée. Et vous devez avoir à cœur l'Assemblée, les intérêts de l'Assemblée. Cela aussi doit vous accompagner dans cette vie. Et ça se manifestera particulièrement, cet intérêt pour l'Assemblée, cet engagement pour Christ, chef de l'Assemblée, dans votre demande à la table du Seigneur. La demande de place à la table du Seigneur, ce n'est pas tellement le mémorial. C'est vrai qu'il y a le côté du mémorial, 1 Corinthiens. Mais il y a aussi le fait que vous témoignez, que vous confessez, professez, faire partie de cette compagnie croyante qui est l'Assemblée. L'Assemblée à Romans, ce n'est pas les dizaines de personnes qui sont là en communion à la table du Seigneur. On sait bien, on l'a dit tout à l'heure, l'Assemblée est composée de tous les croyants, de tous ceux qui ont la vie. Alors, vous avez souci de cette compagnie mondiale et vous désirez, en témoignage de l'existence de cette compagnie, de cet assemblage, c'est-à-dire l'Assemblée, vous désirez en rendre témoignage en étant là autour de la table du Seigneur pour prendre ce pain par lequel vous dites que nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain et un seul corps. Voilà le sens du mémorial, qui est en même temps un témoignage. Et un témoignage rendu primo devant Dieu, secondo devant les hommes. Mais le premier témoignage, c'est dans la présence du Seigneur, devant Dieu. Nous lui disons, eh bien oui, tu le vois, nous sommes constitués en un peuple d'adorateurs, nous sommes là pour une famille de sacrificateurs unis à son chef qui est Christ. En même temps, nous sommes l'assemblée du corps de Christ. Et je suis un membre du corps de Christ, et je le dis, je le professe, en prenant ce pain et en déclarant que nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain, un seul corps, nous sommes des témoins. Étant des témoins, alors nous pourrons adorer, témoins et adorateurs. Nous n'adorons pas individuellement, quoique nous pouvions présenter sans cesse un sacrifice de louange et le fruit des lèvres qui confesse, qui bénisse le nom du Seigneur, c'est bien vrai. Mais nous voyons bien dans la parole, dans 1 Pierre 2 notamment, comme aussi dans l'Idée des Noms au chapitre 18, que nous sommes une compagnie d'adorateurs. Donc il y a le sens de cette collectivité, le sens de cet assemblage pour reprendre la pensée du tabernacle qui était un assemblage de différents éléments. L'assemblage représentait à la fois Christ et à la fois les croyants. Voilà, les bornes, on pense à 1 Jean 2, ce qui est vrai en lui, et en vous. Ça, c'est le commandement de vous. Et je souris un peu parce que je ne voudrais pas aller trop loin dans la première épître de Jean, c'est fort intéressant, mais nous serions trop longs. Et simplement cette expression de 1 Jean 2, le commandement nouveau, c'est ce qui est vrai en lui. Voilà Christ. La vie éternelle manifestée en Christ. Voilà Christ dans le tabernacle, dans les différents éléments du tabernacle qui nous parlent. Qui sont Christ. Christ, manifesté en chair, c'est la vie éternelle en Christ. Voilà le commandement ancien. C'est ce qui est dès le commencement, ce commandement d'un nouvel ordre de choses dans lequel nous entrons par la nouvelle naissance. Ça, c'est le point de départ, c'est le commencement. Et puis, ce qui est nouveau, c'est que cette vie éternelle, tout ce qui est en Christ, nous est commis. Et comme l'a écrit notre frère Darby, bien ça, l'épître, selon Jean, ce ne sont pas les épîtres de Paul. L'épître selon Jean, c'est l'épître de Jean, c'est quand je vois Jésus marcher avec tous ses caractères que nous nous avons rappelés ce matin, je dis, voilà ma vie. Dans les Épîtres de Paul, on dit, c'est le modèle à imiter. En Jean, on dit non. En voyant Jésus, je dis que ma vie, quoique les caractères en soient obscurcis, dans ma vie passe. Et voilà un enseignement majeur concernant la première Épître de Jean, c'est ainsi que l'on peut bien saisir ce qu'elle nous présente. En voyant Jésus, je dis c'est ma vie. Et ajoutons que ce qui fait le lien entre l'Évangile et l'Épître, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 19, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. Parce que moi je vis, voilà l'Évangile, voilà la vie éternelle manifestée en Christ, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez, et bien c'est l'Épître. C'est la vie éternelle communiquée, ce qui est vrai en lui et en vous. Nous l'avons cela aussi dans le tabernacle. C'est quelque chose qui est vu donc au travers de ces différents éléments, symboliquement bien entendu, d'une part Christ, mais aussi les croyants en même temps. Alors, nous disions donc que pour ces jeunes croyants auxquels nous adressions, il faut qu'ils réalisent qu'en prenant leur place à la table du Seigneur, ils s'engagent et en même temps ils sont utiles. Ils s'engagent par intérêt pour Christ, par intérêt pour son assemblée. Et nous enjoignons de ne pas négliger l'assemblée. Nous voulons bien croire que vous avez beaucoup d'amour pour Christ, pour votre Sauveur, votre Seigneur, que vous avez beaucoup d'intérêt pour les âmes qui sont dans ce monde, tous ces pauvres pécheurs auxquels nous avons pensé, auxquels nous pensons souvent, pour lesquels l'Assemblée est exhortée à faire des prières, pour tous ces âmes, des supplications, mais aussi des actions de grâce d'ailleurs, parce que justement, il ne faut pas d'actions de grâce. Le passage du des actes nous le dit, nous l'évite aux Romains. Eh bien, nous comprenons bien que vous avez de l'amour pour tout cela, mais il faut avoir aussi de l'amour et de l'intérêt pour l'Assemblée. Et cet amour et cet intérêt, vous manifesterez en prenant votre place à la table du Seigneur. Alors, en même temps, vous jouirez de votre position céleste, de votre part céleste en Christ, c'est la vocation de l'Assemblée, c'est l'appel céleste qui caractérise l'Assemblée. C'est sa position actuellement, pareil, la sagesse de Dieu est donnée à connaître dans les lieux célestes, aux diverses créatures qui s'y trouvent. Voilà les filles de Théophrade, voilà leur intérêt pour l'héritage, pour leur portion céleste. L'audace de la foi, le désir de l'amour, que cela nous caractérise, que cela aussi nous caractérise tous, parce que c'est pas parce qu'on est en communion qu'on est absolument garanti. Bien au contraire, on est toujours en péril de perdre notre intérêt pour notre portion céleste et notre intérêt pour l'Assemblée. Et nous avons en même temps ce désir de Moïse de manifester son souci pour l'Assemblée jusqu'au bout du voyage, c'est ce qu'il a devant lui. Il ne se soucie pas de regarder le pays, comme l'a dit l'Éternel, ça c'est peut-être davantage pour la fin du Deutéronome, mais il a souci de cette Assemblée afin qu'elle ne soit pas dispersée comme un troupeau qui n'a pas de berger. Il est à la fois un type de Christ, disons-nous, mais aussi un exemple pour nous. Nous ne sommes pas tous comparables à un Moïse, non pas du moins du point de vue du service, du point de vue de la responsabilité, mais en tant que croyants, tels que nous sommes tous, Moïse est là devant nous un exemple. La manière dont Christ s'occupe des siens est pour nous un exemple. Je rappelle simplement, chacun pourra considérer le sujet parce qu'il est facile, mais dans l'évangile de Jean, nous voyons les soins de Christ à l'égard des siens. Dans le chapitre 6, c'est le récit de la nacelle qui est sur la mer en tente. Le Seigneur Jésus s'approche et leur dit ses mots. Voilà la manière dont ils s'occupent des siens quand ils sont en difficulté. Ensuite, au chapitre 10, ce passage que nous rappelons ce matin, il a laissé sa vie pour ses brebis. Il a mis sa vie pour ses brebis. Afin qu'elle ait la vie en abondance. Et puis il va devant elle, il les met à la pâture. Il désire que ses brebis, son troupeau, aient largement de quoi manger, de quoi rassasier leurs âmes, de quoi nourrir leur foi. Et puis à la fin de ce chapitre 10, nous savons que le Seigneur rappelle qu'elles ne périront jamais. Ça, c'est un sujet de toute importance. La vie éternelle ne se perd jamais. Le salut est une sûre garantie qui ne se remet pas en question. Un croyant peut marcher d'une manière défectueuse, mais il ne perd jamais son salut. Il peut arriver à un point tel qu'il peut perdre la jouissance de sa relation avec Dieu, mais cette relation entre lui et Dieu, fondée sur l'efficace du sang de Christ, ne se perd jamais. La jouissance peut en être perdue par un péché. La communion est interrompue. La communion avec Dieu, avec le Père et son Fils Jésus-Christ, c'est la jouissance du salut, la jouissance de la relation avec Dieu, notre Sauveur, et avec son Fils. C'est là qu'intervient le premier chapitre, la première épître. Alors après le chapitre 10, où nous voyons aussi que personne ne pourra nous ravir de sa main, ni de la main du Père, précieuse espérance et encouragement pour chacun de nous, quand nous traversons une circonstance difficile, quand l'ennemi renouvelle ses attaques, eh bien, on sait que rien ne peut nous ôter ni de la main du Seigneur, ni de la main du Père. Ensuite, nous avons Jean 11, où il dit que cette maladie n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu, et pour que le Fils soit glorifié en elle. Et il l'a été. Il a été parce que le Père l'a entendu, parce que Lazare a été ressuscité, mais aussi il a été glorifié parce que ça a été pour lui l'occasion de montrer son amour à l'égard d'une famille et sa sympathie quand il a pleuré. Il a été glorifié dans ses larmes, il a été glorifié dans son amour. C'est les multiples gloires de la personne de Christ, de son amour et sa grâce et sa sympathie. Et puis nous avons le chapitre 12, où Marie Béthanie offre ce parfum dont nous parlions tout à l'heure, où un voleur s'interpose pour demander des comptes à cette femme, et le Seigneur se met entre Judas et Marie. Et il dit avec une douceur extraordinaire, Permets-lui d'avoir fait ceci, il est mort de moi. C'est ce permets-lui qui touche. Voilà comment le Seigneur rectifie les choses. Comment il agit en faveur d'un racheté qui est opprimé, qui est accusé injustement par un Judas, par un voleur, par celui qui avait l'annonce. Tout doucement, permets-lui. Est-ce que nous agissons ainsi à l'égard d'un voleur? Ah, dans beaucoup plus de véhémence, beaucoup plus de dureté. Parce qu'il nous caractérise souvent, c'est l'intransigeance et la dureté. Mais le Seigneur, avec une douceur infinie, dit à Judas, permets-lui, voyons, réfléchis un peu, permets-lui. Et puis, au chapitre 13, nous voilà qui lave les pieds de ses disciples, nous connaissons bien cette scène. Mais j'attire votre attention sur un détail. Il se lève du souper. Après, il va se remettre à table. Mais il avait une position qu'on oserait dire confortable, une position de repos, qu'il se nourrissait. Il laisse tout, y compris ses vêtements. Et nous trouvons 1 Jean 3, verset 16, « En ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a laissé sa vie pour nous. » Et nous, verset 17, nous devons laisser nos vies pour nos frères. Laisser nos vies, ça ne veut pas toujours dire aller jusqu'à la mort, jusqu'au bûcher, jusqu'à la torture, mais ça veut dire aussi laisser notre position, notre situation confortable dans une assemblée. Laisser tout ce que nous avons comme dimension, comme crédit. On pète tout ça, on le met de côté, par amour pour nos frères. Ça implique beaucoup de choses. Bien souvent, nous préférons rester tranquilles, à tout point de vue, matériellement, spirituellement, sur nos bancs locaux, ou dans nos vies personnelles ou familiales. On préfère rester tranquille, et ne pas s'engager pour nos frères. Les disciples avaient besoin de cette. Ils avaient besoin des soins du Seigneur, ils avaient besoin de la main ouverte. La main qui prend l'eau, qui prend le linge, la main qui prend les pieds des disciples. les deux anciens, et nous avons autour de nous des frères pour lesquels il y a lieu de laisser nos vies, d'abandonner tout un ensemble de choses qui constituent notre confort, notre place bien établie. Il faut prendre des risques. On connaît des frères qui ont pris des risques il y a quelques dizaines d'années, qui ont été incompris, qui ont été méprisés, calomniés peut-être même, mais qui sont quand même allés de l'avant. Par amour pour le Seigneur, par amour pour celui qui a laissé sa vie, et par amour pour leur frère. C'est dur d'être incompris et d'être accusé injustement. Mais est-ce que c'est cela qui va nous arrêter? Oui, quelquefois ça nous arrête. C'est vrai. Quelquefois, on dit, mais si je fais ça, si j'agis de la sorte, je reste en vie. Il y a moins de risques. Nous aurions dû dire que le Seigneur a pris des risques. Il a placé sa face résolument pour aller à Jérusalem. Il savait tout ce qui devait s'accomplir. La fin de Jérémie 24 de Luc nous le dit, dans Jean 18 aussi, on lit. Il savait toute chose à l'avance. Et il a placé sa face. Et il est allé jusqu'à la croix. Pour nous faire bouger. L'exhortation est destinée à cela. C'est destiné à nous faire bouger. Quand nous entendons une réunion d'assemblée, réunion d'édification, est-ce que nous avons le sentiment d'avoir reçu un plus? Est-ce que nous avons le sentiment d'avoir entendu quelque chose qui justement nous fait bouger, qui nous fait croître, qui nous édifie, qui nous exhorte, qui nous consomme? Si tel est le cas, nous n'avons pas perdu notre temps. Encore faut-il passer aux actes. Alors on arrive à 1 Jean 3, non plus 16, non plus 17, mais 18. Enfin, n'ayons pas seulement parole et langue, mais en action et en vie. Quel verset. Et bien en action. Bien souvent, nous contentons de belles paroles. On sait très bien les prononcer. On a de merveilleux modèles dans la parole. À prendre par cœur, de mémoire, de belles paroles, un beau langage. Mais il faut passer aux actes. On sait très bien que le Seigneur a dit. On sait très bien qu'il a son activité à l'égard des siens, à l'égard de l'Assemblée. Mais nous aussi, nous avons notre responsabilité, notre action. Dans le premier verset du psaume 126, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, peut-il garder ?» Voilà le Seigneur qui agit. Il l'a. Je ne dis pas spécialement cela pour l'Assemblée, bien sûr, mais de manière générale. Ceux qui la bâtissent, voilà, c'est notre responsabilité, c'est notre activité. L'un va avec l'autre. Ce que le Seigneur fait, je n'ai pas à le faire. Et ce que j'ai à faire, le Seigneur n'a pas à le faire. On sait très bien que dans notre activité professionnelle, qu'on soit un bureau, un clavier informatique ou sur un tracteur, eh bien, ce qui est notre activité professionnelle, le Seigneur ne le fait pas. Il ne va pas faire notre travail. Il va nous donner des forces pour le faire. Il va nous aider, nous encourager, nous consoler parce que nous sommes quelquefois découragés dans la vie professionnelle, mais il ne va pas faire ce que nous avons à faire. Et dans la vie spirituelle, individuelle, familiale ou collective en assemblée, il en est de même. Te laisser seul agir, c'est un cantique qui est dangereux si nous le prenons au pied de la lettre. Ça a l'air de dire, eh bien, on peut la faire, tranquille, le Seigneur va tout faire. Erreur profonde. C'est vrai qu'il faut nous appuyer sur le Seigneur. C'est vrai. Il faut lui confier toutes choses. C'est vrai qu'il va agir dans le sens qu'il va nous donner des directives et qu'il va nous conseiller par son esprit, par sa parole. C'est vrai. Ne détruisons pas complètement ce cantique. Mais méfions-nous de cette parole qui tendrait nous l'amènerait à croire que le Seigneur va nous faire. Non, il nous laisse notre part de travail, notre part de responsabilité. Ça serait trop facile, dans une mesure, de dire, eh bien, non, le Seigneur va tout faire. Moi, je peux rester tranquille. En fait, ça serait du fatalisme. Et la foi n'est pas fatalisme. La foi a deux camps. D'une part, la confiance, l'attente, eh bien, de laisser ça agir, d'accord. Et puis, d'autre part, l'activité, l'intelligence de la foi. La confiance d'une part, l'activité d'autre. La dépendance, la confiance, la soumission, d'autre part, l'intelligence et l'action. La foi, ça c'est deux. Ce sont les deux pans du toit de la foi. Nous étions à ce chapitre 27 des Nombres, Et nous avons vu les cinq filles de Séloftal, Moïse, et nous en étions à l'évangile de Jean, avec le chapitre 13, le lavage des pieds, et puis il y a bien des signes d'amour et de grâce de la part du Seigneur dans le chapitre 14 à 16, ce 16 qui termine par l'encouragement, j'ai vaincu le monde, il sait quels sont nos cœurs, il sait qu'ils sont troublés, craintifs, comme je l'ai dit au début du chapitre 14. Mais c'est bon de relire ces derniers versets du chapitre 16 que j'évoque, que j'ai évoqué. Et puis nous avons le chapitre 18, la Gethsémané. Je vais laisser aller ceci. Le Seigneur Jésus s'est présenté à notre place pour que nous puissions aller en toute liberté. Nous sommes les objets, là aussi, de sa grâce, de la grâce de Dieu. Nous arrivons au chapitre 19, voilà la croix qui est dressée, voilà au pied de la croix la mère de Jésus, et puis le disciple que Jésus aimait. Marie, Jean. Marie, qu'une épée traversée, et le Seigneur le savait. Il se penche vers sa mère, il se penche vers un disciple. Il remet sa mère à ce disciple, il remet le disciple devant ce qu'il a à faire. C'est aussi une scène qui nous montre comment, jusqu'au bout, comme l'annonçait un peu à Moïse, il assume ses soins. Là, non pas à l'égard du peuple, mais à l'égard d'une famille, à l'égard de quelques personnages, qu'ils soient nombreux ou qu'ils soient moins nombreux, il est là pour nous porter, pour nous supporter, pour intercéder, pour manifester de la grâce. Et puis il y a toute la fin du chapitre 20, depuis la rencontre avec Marie de Magdala, jusqu'à la fin du chapitre 21. Alors là, nous voyons la tendresse du Seigneur à l'égard de Marie. Elle lui répond, bravo. Nous voyons l'amour du Seigneur montré, démontré par les blessures de son côté et de ses mains quand il vient au milieu des eaux, son amour. Sa compassion à l'égard de Thomas n'agit pas avec dureté à l'égard de ce disciple incrédule et absent, mais avec compassion. Il sait en quelque sorte se mettre dans une mesure à la place de Thomas pour comprendre ses sentiments et pour agir en conséquence. Et puis, voilà la pêche sur le lac de Tibériade et c'est sa miséricorde. Quel exemple là. Quand même, ça a été 2 minutes que cette scène. Les disciples sont allés là où ils n'auraient pas dû aller. Ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils n'ont rien pris. Le Seigneur ne tourne pas en dérision l'infructuosité de leur pêche. Je m'en fallait. Nous, on a tendance à se moquer de quelqu'un, justement, qui n'a rien pris à la pêche. Dans le domaine matériel et physique, c'est facile. Un pêcheur qui revient de grenouille, c'est très facile de se moquer de lui. Mais spirituellement et moralement, est-ce que nous n'avons pas la même réaction? Est-ce que ça nous est pas arrivé? Non, le Seigneur ne passe là, ne tourne pas les choses en dérision. Il simplement enfant. Avez-vous quelque chose à manger? Est-ce que c'est pas bon, ces paroles? Est-ce que ça ne montre pas ce que c'est que le cœur du Seigneur qui se porte sur la misère des disciples et qui comprend la misère? Les disciples ont froid. Ils sont déçus. Ils n'ont rien pris. Ils ont froid au corps, ils ont froid au cœur. Le Seigneur le sait. Il veut les encourager. Il ne les écrase pas. Il vient autour d'eux, il se penche sur eux, comprend leur état, enfin. Et la réponse des disciples montre une diversité de sentiments et de confessions extraordinaires dans ce seul mot. Non, non, il n'avait rien. Non. Cette confession est très simple. Nous parlions de l'intérêt de la confession. Il ne s'agit pas de faire de grands discours, mais quelquefois, un seul mot. Recouvrant beaucoup de sentiments, beaucoup de grâce, est expressif. Voilà sa miséricorde. Et puis il y a sa puissance. Ce sont les 153 gros poissons que les disciples peuvent ramener. Et puis voilà de quoi réchauffer le cœur et le corps des disciples fatigués. Le Seigneur lui-même a prévu des poissons, a prévu de la braise. Et il y a pour eux ce qu'il faut au bord de rivage. Venez dîner. Le Seigneur après avoir eu soupé. Après avoir eu donc la tendresse, l'amour, la compassion, la miséricorde, la puissance, nous avons maintenant la grâce qui va restaurer bien. Nous connaissons cette histoire. Et puis l'autorité du Seigneur est là, qui met de l'ordre au milieu de ses disciples. Il y en a un qui veut savoir ce qu'il va devenir à un autre. Et le Seigneur lui dit, ce que je vais faire à l'égard de ce disciple, peu importe. Hein. Toi, suis-moi. Voilà une leçon. Ce qui compte, c'est ce que nous avons à faire en regard du Seigneur qui a l'autorité. Toi, suis-moi. Dans l'île de la Genèse, je crois que c'est au chapitre 42, les fils de Joseph devaient retourner en Égypte pour chercher du blé. Ils n'osaient pas y aller. Et Jacob leur dit, mais pourquoi vous gardez-vous la lampe? Mais donc, allez donc chercher du blé en Égypte, offrez auprès de Joseph. C'est ce qui veut dire pour nous, aller vers Christ pour trouver la nourriture. C'est pas la peine de se regarder l'un l'autre, non. Et c'est bien souvent ce que nous faisons. On se regarde l'un l'autre. Pourquoi celui-ci est-il resté la bouche fermée? Pourquoi celui-ci agit-il ainsi? Pourquoi celui-ci sert-il de cette manière? Mais ça ne te regarde pas. Voilà ce que veut dire le Seigneur à la fin de Jean 21. Ça ne te regarde pas. Toi, suis-moi, d'un point, c'est tout. Ou bien, pour reprendre les paroles de Jacob, ce que fait l'un, ce que fait l'autre, ça sert à rien. Et une attitude positive, partir en Égypte, vers Christ, et vous trouverez la nourriture. Quelle belle leçon. Voilà donc, rapidement brossé, les soins du Seigneur dans l'évangile de Jean, à l'égard de son troupeau, des disciples, d'une Marie de Béthanie, de Marie sa mère, à l'égard de Jean, à l'égard des sept qui sont allés pécher, à l'égard de quelqu'un, tout est magnifique. Alors, c'est quelque chose qui nous encourage, qui nous console, cette manière de faire le Seigneur, mais c'est aussi un exemple. Quant à nos rapports les uns avec les autres, montrons, chers frères et sœurs, toujours davantage de douceur, davantage de patience, davantage de suivi. C'est pour moi qu'on dit, ça se trouve déjà dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2.